Radio Capi. Oh, Capi. À la présentation du journal, Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, élection présidentielle du 20 décembre prochain, la Cour constitutionnelle a validé 26 candidatures. Ces arrêts sur le contentieux ont été rendus hier lundi à Kinshasa. De nouvelles candidatures s'ajoutent donc et allongent ainsi la liste à 26. Au nord Kivu, des violents combats opposants, les FARDC et les groupes armés locaux aux rebelles du M23 se sont poursuivis toute la journée d'hier lundi dans la partie ouest de Kibumba. Pendant ce temps, le trafic routier est resté coupé sur cet autre axe, affectant ainsi l'activité de certains transporteurs. L'invité de ce journal est le directeur général de Samcret, partenaire de mise en œuvre du gouvernement pour la réhabilitation de la route Mbujimayi-Kananga, dont les travaux sont presque à l'arrêt. Rami Bassim revient notamment sur le refus de l'IGF de valider un paiement de 27 millions de dollars dans le cadre de ce projet. Merci d'être avec nous. Bonjour, bienvenue, bonne écoute. Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi vont compétir avec d'autres candidats à l'élection présidentielle de décembre 2023. La Cour constitutionnelle a rendu hier lundi à Kinshasa ses arrêts sur le contentieux des candidatures, validant ainsi celle du président de la République sortant et du président du parti Ensemble pour la République. Deux nouvelles candidatures s'ajoutent et allongent la liste des candidatures à 26. Il s'agit des candidatures de Madame Bile Joël et de Monsieur Nguila Enoch qui étaient en contentieux contre la CENI. Reportage de Jeff Ngoy.
Au terme des arrêts de la Cour constitutionnelle, les candidats Seth Kikuni et Noël Chani sont déboutés. La requête du premier a été déclarée recevable mais non fondée. Celle du second, qui contestait la nationalité de Moïse Katumbi, a été déclarée irrécevable pour forclusion des délais et non fondée pour défaut d'intérêt. Comment réagit la partie Moïse Katumbi représentée par ses avocats, dont Maître Francis Kalombo, sur l'indépendance de la justice?
Nous voulons qu'il y ait une justice indépendante. Non seulement nous, mais le président de la République a toujours fustigé sur la justice. Vous savez, moi, je suis un avocat. Je dis jamais merci aux juges lorsqu'ils ont dit le droit. Tout simplement parce que, jusqu'à aujourd'hui, le président l'a dit, a toujours décrié tout ce qui se passe en justice. Et nous sommes là, justement, pour que si nous gagnons ces élections, nous voulons un vrai état des droits. Il faut que le droit puisse primer sur les préjugés, sur les personnes.
Donc, vous croyez à une justice indépendante pour la vérité des urnes?
Nous voulons qu'il y ait une justice indépendante.
Il est déjà là, non?
Non. Pour l'instant, nous sommes qu'au début d'un combat, un long combat.
La Cour ordonne ainsi à la CENI d'aligner sur la liste des candidatures définitives les deux candidats validés dans 48 heures dès sa notification.
Un sentiment de joie et une forte détermination à gagner ce combat à la loyale. C'est la première réaction du camp Katumbi après la validation de la candidature, cette dernière, à l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle. Mais Christian Mwando, le haut représentant de Moïse Katumbi, a des soucis à se faire. Et il est dit au micro de Jean Gandou.
C'est un sentiment de joie et en même temps une forte détermination parce que Moïse Katumbi est déterminé à relever l'honneur du Congo. Et avec sa validation définitive comme candidat, nous sommes maintenant sûrs de la victoire. Nous voulons mener le combat à la loyale et pour nous, c'était ça notre souci, que le meilleur gagne. Mais nous avons une inquiétude par rapport à la Cour constitutionnelle. Vous avez suivi le procureur général qui a proclamé sur le banc que la plainte de Seth Kikuni était irrecevable parce que forclos, alors qu'il a demandé d'analyser la plainte contre Moïse Katumbi. Donc pour nous, c'est un sujet où nous devons rester attentifs parce que ça montre déjà un parti pris. Et nous disons que nous voulons que les choses se passent dans l'ordre, à la loyale, et nous allons gagner ce combat à la loyale.
Vous avez dit la fois dernière que la CENI qui avait 0 est allée à 4 sur 10. Et maintenant, est-ce que le processus a réellement avancé d'après vous par rapport aux appréhensions que vous aviez?
Le processus a avancé parce qu'il faut reconnaître qu'il y a l'inclusivité. C'est le peuple maintenant qui doit décider par rapport à tous les arguments que les uns et les autres peuvent avoir, qui le peuple va choisir et qui le peuple ne va pas choisir.
Un autre candidat à la présidentielle de décembre 2023, c'est le docteur Denis Mukwege. Il quitte quant à lui la ville de Kikwit ce mardi pour une autre destination toujours à l'intérieur du pays, selon ses équipes. Il est arrivé dans le Grand Bandundu dimanche dernier. Sur place, le prix Nobel de la paix s'est entretenu avec des autorités traditionnelles et autres couches de la population. L'objectif de ce déplacement en dehors de Kinshasa est de se rendre compte des réalités et autres défis que traverse la population de l'intérieur de la République démocratique du Congo. Et puis Jean-Luc Mélenchon invite la communauté scientifique africaine à s'impliquer pour aider le continent à se libérer de la domination occidentale, dont américaine et française. Au cours d'une conférence de Bayer lundi à l'université de Kinshasa, l'opposant français a estimé que la politique machiavélique et néocolonisatrice des pays occidentaux est une ingérence qui plonge aujourd'hui l'Afrique et la RDC dans la pauvreté, l'insécurité et l'instabilité. Pour Jean-Luc Mélenchon, l'universitaire congolais devrait combattre la politique extérieure de l'Occident en développant des théories capables d'aider la RDC à déterminer la place qu'elle doit occuper, notamment dans la transition énergétique. Une proposition bien accueillie par les scientifiques de l'université de Kinshasa, nous dit Michel Kifindangoy.
C'est avec beaucoup d'intérêt que le message de l'opposant français Jean-Luc Mélenchon est accueilli ce lundi par les enseignants et étudiants de l'université de Kinshasa. Témoignage d'Esaïe Moutoualé, délégué facultaire et étudiant en deuxième licence.
Il a d'abord démontré les méfaits de la politique extérieure des pays occidentaux. Il a appelé la communauté scientifique à combattre cette politique extérieure des États-Unis ainsi que la France. Il veut que les Congolais puissent déterminer la place que doit occuper la République démocratique du Congo dans la transition énergétique, dans la résolution des problèmes de sécurité ou encore pour la réparation suite aux agressions.
Pour l'opposant français, le développement de l'Afrique passe nécessairement par la désoccidentalisation du continent. Jean-Luc Mélenchon.
Je suis flatté d'être invité par une université qui est prestigieuse et qui forme les élites de la génération qui dorénavant va avoir en charge un rôle singulier lié à la puissance de la RDC dans le concert des nations africaines. J'ai observé qu'on a déjà bien formé une jeunesse qui a l'esprit critique et j'ai beaucoup apprécié ce moment de rencontre. Il était plein de dignité, plein de fierté des jeunes gens.
Notez qu'avant cette conférence qui a duré 2 heures, Jean-Luc Mélenchon a remis un lot de livres à l'université de Kinshasa.
La contribution du Conseil d'État à la consolidation de l'état de droit dans le traitement des litiges relatifs au patrimoine immobilier du domaine privé de l'État. Sur le thème de la rentrée judiciaire du Conseil d'État, hier lundi au Palais du Peuple, ici à Kinshasa, face à la dégradation quotidienne du volume de ce patrimoine, il y a lieu, selon la première présidente du Conseil d'État, d'envisager diverses solutions, notamment ne pas laisser les spoliateurs agir impunément. Des détails, encore une fois, avec Jeff Ngoy.
Pour faire face aux spoliateurs détenteurs de certificats d'enregistrement ou titulaires des contrats de location, Marthe Odionondé recommande à la République d'éviter de procéder par des décisions administratives en violation de la loi. Il lui revient, dit-elle, d'engager des procédures judiciaires, notamment en rescission de différentes ventes pour cause de lésions, s'il est prouvé que l'État a subi un préjudice à la suite d'une disproportion entre les prix d'acquisition de ces immeubles et leur vraie valeur vénale en annulation pour excès de pouvoir. Voire devant la juridiction administrative compétente et même en matière pénale, dont de faux et usage de faux. La première présidente du Conseil d'État recommande également l'établissement d'un fichier unique sécurisé reprenant tous les immeubles du domaine privé de l'État. Elle en appelle ainsi à la collaboration entre différents ministères afin d'éviter toute éventuelle contrariété de décision.
Au Nord Kivu, de violents combats opposant les FRDC et les groupes armés locaux aux rebelles du M23 se sont poursuivis toute la journée d'hier lundi pour le quatrième jour consécutif dans la partie ouest de Kibumba. C'est dans le territoire de Nyiragongo, en profondeur, dans la zone du parc national de Virunga. Pendant ce temps, le trafic routier est resté coupé sur cet autre axe, affectant ainsi l'activité de certains transporteurs, notamment les taximens moto. Des détails avec Bernard Denyangui.
Ces combats ont repris à nouveau ce lundi après une brève accalmie la nuit dernière. Des tirs d'artillerie lourdes se concentrent toute la journée dans le parc de Virunga, ouest de la zone appelée communément Trois Antennes, en groupement de Bumba, selon plusieurs sources. Cette zone est le théâtre des affrontements depuis presque 4 jours consécutifs maintenant entre les forces armées congolaises et les groupes armés locaux contre les rebelles du M23 et leurs alliés qui tentaient sans relâche de déborder par le parc pour attaquer la ville de Goma. Depuis 3 jours, tout trafic et mouvement de population sont suspendus dans cette zone de combat située dans le triangle Kanyamaoro au nord du groupement de Kibati, Kingarame, dans le parc et Kibumba. Du coup, les taximens moto qui avaient acheminé les clients en provenance de retour pour Goma ne peuvent plus retourner dans le territoire et les habitants de Goma et Nyiragongo, qui se ravitaillent déjà en charbon de bois et autres produits vivriers sur cet axe, sont bloqués. Pendant ce temps, nos sources parlent d'un mouvement de renfort que recevraient les rebelles du M23 dans Kibumba et Bumba et qui ne présageaient rien de bon sur la suite de cette guerre dans cette zone où les lignes ne bougent pas après autant de jours de violents combats. Goma, Bernard Dingangui, Radio Kapi.
Et toujours au nord Kivu, dans la ville de Beni, les jeunes du quartier Ngadi ont inauguré le week-end dernier un monument dénommé Monument du 15 octobre. Il a été construit par la communauté en mémoire des premières victimes des massacres de la ville de Beni. Pour rappel, il y a 9 ans, précisément le 15 octobre 2014, 33 civils avaient été tués dans une attaque des ADF en Ngadi. Le président de la société civile locale parle ici de l'importance de ce monument. Stéphane Mbakama Nikonja est au micro de Marc Marofimbo.
Pour nous, ce monument représente une triste mémoire quand nous pensons au nôtre. Là où nos jeunes jouent au football à Beni porte le nom du stade du 15 octobre. Et pour nous, comme population du quartier Ngadi, ça ne suffisait pas pour que nous nous rappelions de nos gens massacrés. Alors, nous avons initié le projet de la construction du monument du 15 octobre ici chez nous en Ngadi, raison pour laquelle nous avions sensibilisé la population afin d'avoir les fonds pour sa réalisation. Et c'est ici que nous nous rappelons de toutes les actions et événements malheureux des Ngadi qui ont eu lieu le 15 octobre 2014. L'unique chose que nous demandons aux autorités, c'est d'abord la paix et la stabilité, que chacun regagne son milieu d'origine. On peut tout manquer, mais si on a la paix, ça vaut la peine. La vie va continuer. On peut aller au champ, dans la profondeur et retourner car il y a la paix. Donc, la paix, c'est l'unique chose que nous demandons aux autorités afin que nous nous rétablissions dans nos entités d'origine, chacun calme chez soi.
Le problème des effectifs des militaires FARDC sera résolu bientôt. C'est ce qu'a déclaré le coordonnateur des services d'information et de communication des forces armées SIFA de la 3e zone de défense à son arrivée dimanche dernier à Bounia, en Ituri. Il accompagne son chef, le lieutenant-général Mbangu Mashita Marcel, qui est en mission d'inspection des troupes après les étapes du Sud Kivu et du Nord Kivu, dont Goma et Beni. Son chargé de communication rassure que de nouvelles unités nouvellement formées seront déployées en Ituri pour combattre les groupes armés résiduels qui commettent des violences contre la population. Suivez un extrait de la déclaration du major Nestor Mouvoudissa, choisi ici par Martial Kizabiamungu.
Les effectifs des militaires, oui, c'est le problème est connu. D'un moment à l'autre, nous avons le chef de l'état-major général a bien dit que nous avons 14 000 recrues qui viennent de terminer la formation et ils seront déployés. La priorité de ces déploiements, c'est l'est de la République démocratique du Congo, donc l'espace de la troisième zone de défense. Le problème de l'effectif sera incessamment décompté. C'est pour cette raison que le commandant tiendra de réunions et de commandement avec les commandants de grandes unités pour les apaiser et il va communier personnellement avec les hommes des troupes pour qu'ils sachent que d'un moment à l'autre, tout sera normal et que les effectifs seront au grand comblé pour combattre les quelques résiduels de Codeco qui jusqu'à là sèment encore la terreur dans nos populations, dans l'ensemble de la province de l'Ituri.
Parlons de ce démarrage des travaux de réhabilitation de la route entre les ports publics de Kalundu et le rond-point Kanvivira dans la ville d'Uvira, au sud du Sud Kivu. Deux jours après leur coup d'envoi le week-end dernier par le ministre d'État et ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro, ces travaux se poursuivent normalement dans la ville d'Uvira. Les ministres des ITP avaient dit devant le public à Uvira que ces travaux dureront 18 mois et concernent uniquement une dizaine de kilomètres entre Kalundu et Kanvivira, pendant que d'autres travaux lancés à partir de Nyantende se poursuivront vers les escarpements de Ngomo sur la route nationale numéro 5 jusqu'à Kamanyola. Les propos du ministre Alexis Guissaro ont été recueillis par Fiston Goma.
Nous vous donnons à partir de ce jour à peu près 18 mois et cette route sera achevée. 18 mois. Il est possible que des petites intempéries, la pluie, puissent retarder un peu, mais globalement, nous allons veiller à ce que l'entreprise exécute dans les délais. Non seulement dans les délais, mais avec la qualité requise. Nous ne sommes pas en train de construire pour que demain, il y ait des trous qui apparaissent sur la route. C'est l'occasion pour moi d'attirer l'attention à nous tous. Cette route, c'est nous qui en sommes les bénéficiaires. Lorsque il y a des manifestations, ce qui est accepté par notre constitution, mais que vous voyez des gens amener des pneus pour les brûler sur la route, sur la chaussée, mes chers frères, ne l'acceptez pas. Parce que si on brûle des pneus sur cette chaussée, eh bien vous allez abîmer cette chaussée. Et qui en seront les perdants, qui en seront les victimes, c'est encore nous, la population.
Actualité internationale.
Le roi Charles III et sa femme sont arrivés au Kenya hier lundi 30 octobre au soir. C'est la première visite du souverain britannique dans un pays du Commonwealth depuis son couronnement. Ils y resteront jusqu'à vendredi prochain entre Nairobi, la capitale, et Mombasa, ville portuaire, sur la côte est. Une visite sur invitation du président William Ruto, alors que le pays s'apprête à célébrer ses 60 ans d'indépendance en décembre prochain. Et plus de 70 personnes ont été portées disparues au Nigeria depuis samedi dans le naufrage d'un bateau fluvial transportant notamment des commerçants locaux dans une rivière du nord-est du pays.
L'invité.
Nous recevons dans ce journal Rami Bassim, directeur général de Samkret, partenaire des mises en œuvre du gouvernement pour la réhabilitation de la route Mbujimayi-Kananga, dont les travaux sont presque à l'arrêt. Il revient notamment sur les refus de l'IGF de valider un paiement de 27 millions de dollars dans le cadre de ce projet. Rami Bassim, dans cet entretien accordé à Cynthia Bachizina Bizana.
Rami Bassim, bonjour.
Bonjour.
Alors, le contrat pour la construction de la route Mbujimayi-Kananga a été signé au Caire en 2021 pour une durée initiale de 33 mois. Nous sommes aujourd'hui en octobre 2023. Qu'est-ce qui a été déjà fait? Quel est le taux de réalisation des travaux?
Au commencement, je veux dire que le projet et le contrat est signé le février 2021. Ça doit commencer directement après que l'FPI nous verse la somme de 30% du projet contre lettre de garantie. Le premier temps, ils ont dit qu'il y a un peu des problèmes financiers. Ils veulent qu'ils versent 9% seulement, pas 30%, et qu'on commence avec ça. On a accepté. C'était au mois de décembre 2021. Le montant versé, c'était versé fin avril 2022, ça veut dire un an et deux mois après la signature du contrat. Et c'était, comme j'ai dit, 9% qui est 27 millions de dollars, pas 90 millions de dollars comme prévu. On a dit OK, pas de souci, on peut commencer. Et dans six mois, le reste doit être versé.
Alors aujourd'hui, pour bien comprendre, l'IGF refuse justement de valider une avance de 27 millions de dollars. De quoi est-ce qu'il s'agit?
Franchement, je ne sais pas. Comme c'est contre lettre de garantie, ça veut dire que on est en train de travailler avec nos argent.
Votre argent, okay. Les 63 millions.
Les 63 plus les 27.
Les 27.
Et il y a 15 millions qui est aussi contre une garantie de performance bond. Ça veut dire que tout est sécurisé chez eux. Ce que l'IGF veut faire, contrôler comment on a dépensé les 27 millions. Et comme ce n'est pas un paiement, c'est décaissement, par loi, ce n'est pas possible. Et par le contrat, on n'a pas reçu le propre fonds pour travailler sur la route complète.
Vous avez quand même reçu une partie de l'argent. Qu'est-ce qui a déjà été fait sur terrain?
Sur terrain, on a mobilisé l'équipe des engins, pas toutes. On a commencé à travailler sur le premier lot. Le projet est divisé pour 13 lots, à peu près équivalent, 15 à 16 km chacun. On est en train de travailler sur les 15 km, premiers 15 km. On a acheté des matériels et matériaux qui sont traînés au port depuis, il y a des engins qui sont là-bas depuis le mois de février. 2500 tonnes de bitume qui est au port entre Matadi et Kinshasa. Et ça nous cause des problèmes. Nous sommes en train de dépenser, payer pour les gens qui sont sur terrain. Et à la fin, le taux de travail, nous ne sommes pas contents avec ce taux de travail.
Il est de combien? L'IGF parle de 11%. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce pourcentage avancé par l'IGF?
C'est pas grand. Peut-être c'est plus, peut-être c'est moins. Mais à la fin, c'est pas bon. Nous ne sommes pas contents. Mais comment on peut exécuter les travaux sur site sans les engins, sans les matériels, sans quand même avoir les obstacles qui sont sur terrain, sans pas résoudre?
Est-ce que vous avez déjà adressé ces difficultés-là pour pouvoir trouver une solution et continuer le travail sur terrain?
Normalement, on...
Pourquoi avoir attendu maintenant pour évoquer tout ce blocage-là?
Nous ne sommes pas commencés à parler dans les presses et tout ça nous-mêmes. Nous, on adresse dès le début tous les problèmes avec le maître d'ouvrage qui est l'FPI. À la fin, l'FPI, ça appartient à ministère de l'Industrie et c'est le gouvernement. Mais on adresse. Ça doit être que tous les parties doivent rester sur une table et avoir une solution.
Vous êtes prêt à aller en arbitrage si vous ne trouvez pas une solution à l'amiable avec votre partenaire, le gouvernement?
Ça sera une option, mais on laisse ça jusqu'à la fin. Mais à la fin, on a des droits, car on est en train de faire des dépenses, on était dédiqué pour le projet. Vous connaissez, si on a un grand projet comme ça, il y a l'équipe, les gens qui sont sur ça, on laisse d'autres opportunités. Si on n'a pas gagné ce projet, on est en train de voir d'autres projets. Mais on a dédiqué des ressources, des gens sur place pour ce projet-là. Ça veut dire que si on ne le fait pas, il y a des pertes.
Rami Bassim, je vous remercie.
Merci à vous.
C'était notre invité, Rami Bassim, directeur général de SAMCRET, partenaire de mise en œuvre du gouvernement pour la réhabilitation de la route Mbujimayi-Kananga. Il s'entretenait avec Cynthia Bashizi Nabizana. Ce journal est à présent terminé. Il a été supervisé par Pele Kipela Mondo et mis en onde par Dedone Nyangasa. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.